Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
J'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Laurine Melka, professeure d'économie à Tourcoing, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme monter en haut d'un beffroi, ça fait forcément prendre de la hauteur. Bonjour Léa.
Bonjour Laurine.
Aujourd'hui Léa, j'avais envie de vous parler d'un champ de l'économie qu'on n'a pas beaucoup abordé dans Splash. Un champ multidisciplinaire qui s'appelle l'économie géographique.
La ville vaut-elle la peine d'être vécue ?
Je suis sûre et certaine, auditrices et auditeurs citadins, qu'au beau milieu des grèves dans les rames de métro bondées, mais aussi coincés dans les embouteillages de retour de week-end ou devant les prix faramineux de l'immobilier, vous vous êtes demandé ce que vous faisiez là à vivre entassés les uns sur les autres dans des villes tentaculaires.
Moi non, hein, j'aime tellement la ville, mais je crois que je dois être la seule. En France, selon l'INSEE, la ville se définit comme un territoire où le bâti est continu. Il faut qu'il y ait au moins 200 mètres d'écart entre les constructions, rassemblant au moins 2000 habitants. Dans les faits, ça regroupe des réalités bien différentes entre, par exemple, Castelmouron-d'Albret, la plus petite ville de France, on salue les Girondins d'ailleurs, et le centre-ville des grandes métropoles.
Oui, la définition peut même varier selon les pays. En Grèce, par exemple, il faut un seuil de 10 000 habitants. Mais bon, l'idée de l'urbain, c'est à chaque fois celle d'un espace délimité, qui concentre une population importante et où les bâtiments sont suffisamment proches.
Selon cette définition, en 2016, on aurait en France 50 millions d'urbains, plus des trois quarts de la population.
Et depuis 2008, le phénomène serait même planétaire, puisque plus d'un humain sur deux vit désormais en ville, contre 1 sur 10 en 1900. Selon les projections des Nations Unies, d'ici à 30 ans, on aurait 2,5 milliards de citadins supplémentaires. Et le monde pourrait avoir 43 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants, contre 31 aujourd'hui.
Bon, en France, nos 21 métropoles, comme la métropole lilloise où tu habites, Laurine, ou celle de Marseille qu'on connaît bien chez Splash, elles sont à plus petite échelle.
Mais elles regroupent au minimum 400 000 habitants, ce qui fait quand même pas mal. Et je te propose donc qu'on analyse classiquement les avantages et les coûts de cette métropolisation. Alors oui, tu vas me dire, à la question du pourquoi on s'agglutine en métropole, on se doute déjà un petit peu de la réponse. Vivre en ville, et surtout dans une grande ville, ça procure un certain nombre d'avantages comparatifs, comme on dit en économie.
Ben oui, il y a le travail, les boutiques, l'accès à la culture, la proximité des amis, etc.
Exactement. Mais l'économie géographique va aussi nous aider à comprendre en quoi l'agglomération exerce d'énormes forces économiques. On écoute donc l'une de ses spécialistes en France, Sylvie Charlot, professeure d'économie à l'Université Lyon 2.
L'économie géographique au sens large, la géographie dans l'analyse des phénomènes économiques, c'est très ancien puisque c'est pratiquement indissociable de ce que c'est que l'économie dans son essence même, puisque l'économie c'est l'analyse de la production, des échanges, des ressources rares et de la distribution des ressources rares dans une société. Et que à partir du moment où les ressources sont localisées, où les premières ressources étaient ce qui permettait de nourrir les hommes.
L'économie géographique est donc un champ de recherche ancien qui a commencé dès le 19e siècle en mettant au cœur de l'analyse les coûts de transport des marchandises. Bon, classiquement, la production, le PIB, dépend de la quantité d'hommes, le facteur travail et la propriété des moyens de production, le capital. Sauf qu'en intégrant les coûts de transport à cette analyse classique, ça devenait carrément le facteur économique déterminant des différents types de production.
Un économiste allemand de l'époque, Johann Heinrich von Thunen, a ainsi expliqué la localisation des activités productives autour du centre-ville, qui est en fait le lieu de l'incarnation physique du marché, comme le lieu où les agriculteurs peuvent écouler leur production.
Il y a quand même tout un pan de l'économie qui s'est développé autour de ces questions-là au XIXe siècle. On a eu aussi après Weber avec l'industrialisation qui s'est intéressé, lui, au choix de localisation des entreprises, en faisant l'arbitrage entre la distance aux ressources premières, comme les minerais pour l'industrie minière. Donc, arbitrage à ces ressources premières et, de l'autre côté, au marché sur lequel allait être vendue la production minière une fois produite.
Toujours à la même époque, un géographe, Auguste Loesch, explique alors la formation des villes en analogie avec les rayons de ruches d'abeilles. Pour maximiser leurs ventes et s'assurer que la zone de marché, les lieux d'habitation des consommateurs, soient totalement couvertes, les entreprises ont intérêt à tenir compte, à la fois de leurs coûts d'acheminement à partir des sites de production, mais aussi de la localisation des différents clients et des concurrents. Elles vont donc contribuer à mailler le territoire en suivant une sorte de pavage hexagonal en forme d'alvéole d'abeille.
Car non seulement les entreprises cherchent à minimiser leurs coûts de transport, mais les consommateurs aussi. Sauf que, sur certains types de biens, les consommateurs seraient quand même prêts à supporter davantage de coûts.
Ces économistes parlent de portée spatiale d'un bien. Par exemple, si j'habite en ville, même dans une petite ville, plutôt qu'à la campagne, c'est pour avoir à portée de main, en bas de chez moi, des biens de première nécessité. Le boulanger pour mes croissants du matin, le boucher pour la viande, le pharmacien pour les médicaments, etc.
En revanche, pour acheter des meubles, ce qu'on fait pas tous les jours en fait, je suis prête à sortir de la ville pour aller chez Ikea par exemple.
Alors monsieur, vous pouvez pour votre canapé louer une camionnette. Alors c'est 500 euros de caution, ensuite c'est 9 euros la demi-heure toutes les demi-heures et on enchaîne au bout de deux demi-heures sur 16 euros par heure pendant 8 heures.
Sauf que les magasins Ikea, ils seront forcément implantés près des métropoles. Car les industriels de ce type ont bien compris que les villes de petite taille ou de taille intermédiaire ne sont pas viables pour proposer ce genre de produits. Elles desservent un trop petit marché.
Donc si on résume, d'un côté, les services d'usage fréquents et bon marché sont proposés dans les petites villes proches des consommateurs. De l'autre, ceux dont la fréquentation est plus rare. Cela nécessite des économies d'échelle dans la production, ou s'adresse à un public de niche genre boutique spécialisée. Du coup, ils se localisent dans des villes plus grandes ou dans leur périphérie.
À partir de là, on a un peu, comme pour les entreprises, une concurrence spatiale entre les villes de taille équivalente pour attirer les consommateurs. C'est une compétition qui est souvent liée au départ à la donne historique et géographique de chaque ville, comme l'a rappelé l'économiste américain prix Nobel d'économie, Paul Krugman.
Et ce qu'a mis en avant Krugman, il a distingué bien précisément ce qu'il a appelé les avantages de première nature, qui explique la formation des villes. Donc, par exemple, le fait que dans certains endroits, dans certains points du globe, on a des avantages, historiquement, des avantages de type fleuve qui permettent un transport plus facile, accès à la mer, ou des productions, des terres agricoles plus productives, ou des ressources premières disponibles à ces endroits-là. Donc, c'est ce qu'il appelle les avantages de première nature. Mais aussi en avant le fait que l'histoire compte, c'est-à-dire que en regardant aujourd'hui, en comparant Paris et Lyon, il y a aussi des explications liées à l'histoire qui font que Lyon n'est pas restée la capitale de la France, alors que les avantages de première nature étaient peut-être plus importants à Lyon.
En reprenant l'idée centrale des coûts de transport, on comprend pourquoi les premières villes se sont bâties à proximité de la mer ou des fleuves. Cela constituait à l'époque les grands axes de circulation des biens et services. C'est souvent le premier avantage économique de ces métropoles. Après, comme le dit l'économiste Sylvie Charlot, certaines villes ont aussi étendu leur pouvoir économique du fait d'une histoire particulière. C'est l'exemple qu'elle donne de Paris. Alors que Lyon était la capitale de la Gaule, Clovis, mérovingien et roi des Francs, issu des peuples des régions de Cambrai et de Tournai, en Belgique, c'est pas loin de chez moi, va s'établir à Paris pour en faire sa capitale en 508. Bon, Paris s'est aussi forgé son pouvoir central autour de la monarchie française ou du jacobinisme de la Révolution.
Ceux qui ont pris la Bastille, c'était des...
Je ne sais rien, moi, des cow-boys, des indiens, je ne m'en rappelle plus, moi.
Abruti, non.
Ok, pour les avantages de première nature, qui dépendent de la géographie, mais aussi de l'histoire, d'où l'intérêt de croiser ces sciences sociales. Mais dit, avec l'abaissement des coûts de transport, grâce au développement du fret maritime, de l'avion, du train, ça change pas quelque chose à la donne de départ ?
Sauf que les effets d'agglomération de ces territoires ont été lancés. Et qu'il en découle alors un tas d'avantages économiques, ceux dits de seconde nature, selon l'économiste américain Paul Krugman. Il explique pourquoi, avec l'aide du concept d'externalité, développé dès le 19e siècle par l'économiste anglais Alfred Marshall.
Et puis, donc, en dehors de ces questions de première nature, il met en avant le rôle des avantages de seconde nature. Et donc ça, c'est le mécanisme, le phénomène qui fait qu'à partir du moment où il y a une certaine concentration en un lieu d'activité économique, on va avoir un phénomène cumulatif d'agglomération, donc lié à ces fameuses économies d'agglomération.
En fait, pour bien comprendre le concept d'économie d'agglomération, il faut comprendre que c'est un cumul d'avantages économiques qui se nourrissent les uns les autres,
un peu comme un cercle vertueux. On a un premier avantage. Ça coûte au départ moins cher pour les entreprises d'acheminer les marchandises dans ces grosses villes. Et puis, moins cher pour les consommateurs de s'y approvisionner.
De l'autre côté, on a aussi les consommateurs qui ont intérêt à être proches des producteurs, enfin, ou des entreprises qui offrent un certain nombre de biens et services, donc pour éviter de supporter le coût de transport de ces biens et services, mais aussi parce que les consommateurs sont aussi des travailleurs potentiels. Ces consommateurs ont aussi intérêt à être près d'un marché du travail important.
Et puis, il n'y a pas que le marché des biens et des services qui lie les entreprises et les ménages autour des métropoles. Il y a évidemment le marché du travail.
Oui, car 46% des emplois sont concentrés dans les métropoles en France, selon une étude de France Stratégie. En 2011, elle regroupait 85% des ingénieurs de l'informatique, 75% des professionnels de l'information et de la communication et 69% du personnel d'études et de recherche.
La région parisienne concentre, elle, les trois quarts des emplois culturels. 67% des emplois dans le cinéma, l'audiovisuel ou le multimédia. Tous les employés de ces secteurs n'ont donc pas vraiment d'autre choix que de vivre à proximité de cette métropole.
D'un côté, ces salariés qualifiés peuvent y trouver l'emploi qui correspond le plus à leurs compétences et à leur savoir-faire. De l'autre, les entreprises y trouvent leur compte parce qu'elles ont une offre plus diversifiée en termes de compétences liées à leurs besoins.
Et après, ça draine toute une série d'autres emplois. Des emplois moins qualifiés comme les aides à la personne, les nounous, les personnes qui font le ménage, etc. Et si on revient aux emplois qualifiés, les entreprises d'un même secteur ou d'une filière, qui sont localisées au même endroit, tirent en fait profit à différents titres de cette proximité géographique. Pas seulement directement à travers les salariés qu'ils emploient ou par leur mise en concurrence, mais aussi indirectement par le partage de connaissances et d'informations entre travailleurs. C'est la raison pour laquelle, un peu différemment de ce que pensait le modèle des aires de ruche, des entreprises concurrentes s'installent non pas à distance raisonnable les unes des autres, mais à proximité immédiate. On peut penser à la Silicon Valley qui regroupe plus de 6000 entreprises de haute technologie en Californie, ou bien au quartier d'affaires de la Défense près de Paris où siègent plusieurs banques françaises. C'est là le cœur même de la force d'agglomération, selon Krugman.
Parfois en passant d'une entreprise à l'autre, parfois de façon informelle, dans les lieux de sociabilité, les cafés, les restos, on noue des relations sociales, on parle de notre boulot. Et c'est ainsi que les travailleurs vont transférer des savoir-faire et des compétences.
Vivre et travailler le plus proche possible les uns des autres, ça augmenterait notre productivité, voire l'innovation. Et sans avoir besoin de débourser quoi que ce soit pour le faire. C'est pour cela que les économistes parlent d'externalité positive.
On peut classifier les économies d'agglomération en trois grands types d'économies d'agglomération, donc qu'ils appellent donc learning, le fait que on apprend plus quand on est en contact avec plus de gens, le matching, le fait que effectivement, et c'est exactement ce phénomène-là sur le marché du travail, c'est que on a un meilleur appariement entre les salariés, leurs compétences et les besoins des entreprises, quand l'offre et la demande de ces compétences et de ces besoins sont beaucoup plus diversifiés.
Learning, matching, sans oublier le sharing.
Le troisième type d'économie d'agglomération que Duranton et Puga différencie, c'est ce qu'elles appellent sharing, donc le fait de partager en particulier des grosses infrastructures, à coût fixe important, évidemment tout ce qui est lié au transport, mais aussi de partager des services publics locaux plus diversifiés et un certain nombre de ce qu'on va appeler les infrastructures au sens large du terme, pas forcément publiques, qui sont trop lourdes à supporter pour un petit nombre d'entreprises, mais dont le coût est largement supportable dès qu'elles sont partagées par un certain nombre d'entreprises.
Donc résumons, les métropoles ont de nombreux avantages économiques. Le premier, c'est qu'elles ne sont pas construites par hasard. Leur position géographique, en lien avec l'histoire de la circulation des personnes et des marchandises, a fait qu'elles bénéficient d'avantages de première nature.
Bâle, Cologne, Lyon, Francfort ou Milan ont pu devenir des villes carrefours majeures en Europe en tirant parti de la convergence des grandes routes marchandes continentales. Il existe ensuite des avantages économiques extrêmement robustes à l'agglomération. Le deuxième avantage, c'est l'effet taille de marché. Ça coûte moins cher de produire en grande quantité pour un marché proche de centaines de milliers de consommateurs. Le troisième avantage, c'est la diversité des produits. C'est dans les grandes villes que sont offertes la plus grande variété de biens et de services. Même si à l'heure d'Internet et d'Amazon, cet avantage perd un peu de sa force. Enfin, les ménages et les entreprises ne sont pas liés que par le marché des biens. Il y a là aussi un double avantage, pour les employeurs comme pour les travailleurs, à s'agglomérer. On est théoriquement plus productif si on travaille dans un environnement concurrentiel, mais aussi dans lequel il y a plus d'interactions sociales.
Et on a plus d'opportunités dans une métropole pour trouver un emploi ou évoluer. Par exemple, pour les gens en couple, il est plus facile de suivre en parallèle deux carrières.
Et lorsqu'on se sépare, mieux vaut vivre dans une ville où les potentialités d'emploi existent. Au risque sinon de devoir déménager, ou lorsqu'on a des enfants, d'être privé d'une garde alternée. Bref, il y a des forces puissantes qui poussent à l'agglomération. Les économistes parlent même de forces centripètes.
Pour faire simple, c'est le contraire d'une centrifugeuse. Au lieu de disperser, ça tend à rapprocher tout du centre.
Mais évidemment, on peut se demander quels sont les coûts que fait peser aussi cette métropolisation.
Bon, question coût, tu nous en as déjà donné en début d'épisode. Les embouteillages ? Le stress ?
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 ventes et terminer bonsoir.
Puis, le coût du foncier.
J'ai hérité d'un immeuble, avenue du Général Brunet. J'envisage de le vendre.
Les économies d'agglomération mettent l'accent quand même sur les avantages à la concentration des activités productives, on va dire, au sens large du terme. Mais la contrepartie, c'est évidemment l'analyse des choix de localisation pour les ménages qui, eux, vont chercher effectivement à se rapprocher de leur lieu de travail, centrés dans les villes, mais avec le coût du logement qui vient trop élevé.
S'agglomérer en un lieu restreint, avec une offre limitée de bâti, se transforme en coût de localisation pour les entreprises dans les centres-villes qui deviennent très élevés. Mais surtout, en coût du logement exorbitant, ce qui chasse les ménages les plus modestes à l'extérieur de la ville, en périphérie. Comme le rappelle le géographe et politiste Guillaume Faburel, auteur d'un livre au nom évocateur, « Les métropoles barbares ».
Force, courage, témérité, voici les qualités que Kron a léguées à notre peuple. Souvenez-vous à chaque instant que c'est le sang de Kron qui a fait de nous des barbares.
Il faut regarder la ségrégation spatiale, puisque la métropolisation a quand même pour caractéristique première d'attirer des publics particuliers, cibles, dans certains domaines d'activité, avec certains capitaux sociaux, plutôt dématérialisés, hein, voilà, des diplômes, des réseaux, etc. Et que tout ça renchérit le coût d'accès aux agglomérations, donc au fait de vivre en ville, et du fait même qu'il peut y avoir aussi une exclusion, on a des fragmentations toujours plus visibles.
Cette périurbanisation entraîne évidemment dans un cercle cette fois vicieux, ce que les économistes appellent des effets de congestion. Ça ne s'invente pas. Comme avec les infrastructures de transport et les embouteillages.
Il y a plusieurs effets négatifs des terrains, de l'urbanisation généralisée, de la métropolisation en particulier. Et ce qui, moi, m'intéresse singulièrement hein, dans l'observation de la métropolisation, c'est celle de nos vécus, de nos vies, de nos existences. Donc, effectivement, ça a tout un tas de conséquences, mais d'abord humaines et sociales. Avant même, quoique hein, on peut les faire simultanément, de regarder aussi les impacts territoriaux, mais par le fait même des modes de vie, des styles, des formes de vie que la métropolisation nous enjoint un peu d'avoir. Donc le premier effet, ou en tout cas la première caractéristique de la métropolisation qui aurait des conséquences pour moi délétères, c'est l'accélération des flux et des rythmes de vie. On est sommé d'être en permanence en mouvement, d'être en quête incessante de mobilité. Cette chose-là a quelques effets négatifs, hein, puisque le mouvement en question, ça implique très directement nos organismes et les corps, et que ça a des impacts tout à fait directs sur la santé individuelle.
L'accélération des modes de vie, avec le stress que ça génère, ferait partie de ce que Guillaume Faburel appelle la barbarie des métropoles. L'ensemble des congestions, auxquelles s'ajoute l'augmentation de la rente foncière.
Oui, les travailleurs les plus modestes sont obligés de s'éloigner du centre-ville s'ils veulent avoir accès à un logement plus grand, voire à un logement tout court. Et ça, les économistes aussi le savent.
Lié à la concentration en ville qu'on va observer, une des conséquences, c'est forcément ce qu'on appelle l'étalement urbain. Et c'est principalement les ménages qui vont effectivement aller se localiser de plus en plus loin des centres-villes au fur et à mesure que le coût du logement dans ces centres-villes augmente.
Et de l'autre, on a aussi des phénomènes de gentrification. Les quartiers historiquement populaires, proches du centre-ville, sont progressivement occupés par des ménages bien plus aisés. Et là encore, ça fait monter les prix. Quand ce ne sont pas des promoteurs immobiliers qui achètent dès que possible des immeubles insalubres laissés à l'abandon. Et quand ne vient pas s'ajouter l'effet Airbnb.
Oui, ça c'est un gros problème à Paris avec les nombreux propriétaires pour qui en fait il est plus facile et avantageux de louer en location saisonnière à la semaine voire à la nuitée. Plutôt qu'au mois à un locataire de longue durée par exemple.
Ces locations de courte durée rétrécissent automatiquement l'offre de logements disponibles à la location standard et ça fait encore monter les prix.
Ça pose une grande question de régulation, de l'accès au foncier ou au logement dans les villes, dans leur périphérie. Et puis, une des conséquences aussi, c'est la ségrégation parce que les ménages ne sont pas armés de la même façon pour faire face au coût du logement au centre-ville. Il y a effectivement aussi des phénomènes de ségrégation spatiale et ségrégation au sens large, c'est pareil.
On doit ajouter à cela, évidemment, la pollution.
D'après l'OMS, la pollution de l'air enlèverait 8 mois d'espérance de vie aux Marseillais et 6 mois aux habitants d'Île-de-France par rapport à des métropoles moins polluées.
Aujourd'hui, la métropolisation, comme fait urbain généralisé, c'est globalement 55% de la population mondiale qui serait urbaine, 70% en 2050, c'est annoncé dans le projet de Change de la vie, mais c'est de 60 à 90% des émissions de gaz à effet de serre, des différents polluants.
Sans oublier enfin que la métropolisation s'accompagne de formes d'exclusion ou d'isolement social. En conclusion, si on s'agglutine en ville ou en métropole, c'est en grande partie rationnel. Vivre en ville, c'est accéder à une plus grande diversité de biens et de services, notamment publics, des lycées, des universités, des hôpitaux, ou culturelle, mais aussi souvent parce qu'on a guère le choix. La métropolisation a participé au développement des emplois de service et grâce à toute une série de mécanismes, à toute une économie qui évidemment se concentre en son sein, participe de la croissance ou encore de l'innovation. Pour autant, comprendre les ressorts de cette urbanisation ne veut pas dire oublier la souffrance sociale que génère celle-ci, l'exclusion, mais aussi tous les coûts environnementaux et de santé publique que font peser tous ces déplacements pendulaires quotidiens. En élargissant ainsi le raisonnement économique standard du calcul coût-avantage, pas sûr que la métropolisation à outrance soit encore aujourd'hui la bonne option économique.
D'ailleurs, de plus en plus d'urbains commencent à vouloir décrocher de ces métropoles.
C'est fini, Paris.
Et cherchent alors, avec d'autres, de nouveaux modèles de vie en société. Mais ça, c'est ce qu'on va voir très bientôt.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une idée originale d'Étienne Tabag. Cet épisode est écrit et animé par Laurine Melka, co-animé par Léa Lejeune, produite par Nouvelles Écoutes. Prise de son, Johanna Cincinnatis. Montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galigani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendus dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas, vous aussi, à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !